Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission À toi les étoiles. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Briot, et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle émission d'À toi les étoiles. Vous le savez, chaque été, je vous propose la formule été d'À toi les étoiles, qui consiste, au lieu de faire venir les invités dans les studios, à me promener à travers la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, pour l'émission du mois de juillet 2012, j'étais dans le sud-est de la France, sur la Côte d'Azur, sur le plateau de Calerne, pour vous faire découvrir donc le plateau de Calerne, qui est une dépendance de l'observatoire de la Côte d'Azur. Pour cette émission de août 2012, eh bien, je me trouve de l'autre côté, si on peut dire, le sud-ouest. Je me trouve au pic du midi, dernier étage avant les étoiles, comme dit le slogan. Je suis là à 2877 mètres d'altitude et le bruit que vous entendez, c'est le vent et aussi les machineries du téléphérique qui est en train de monter actuellement le public, puisque vous savez, ce lieu accueille du public. Durant cette émission, eh bien, nous allons découvrir le pic du midi, bien sûr, ses activités et notamment les installations. Et puis, comme c'est la nuit des étoiles, cette émission a été enregistrée le vendredi 10 et samedi 11 août 2012. Eh bien, vous découvrirez aussi les activités proposées pour la nuit des étoiles. Pour l'heure, eh bien, je suis là sur la terrasse sud. J'ai un magnifique panorama sur les Pyrénées. Je vais maintenant me rendre à l'intérieur pour rencontrer un responsable qui va nous parler du pic du Midi et notamment de son historique. Me voici en compagnie de mon premier invité et je vais rencontrer plusieurs tout au long de cette émission. Je vais tout d'abord lui demander de se présenter.
Jean-Jacques Véder, qui est technicien à l'Observatoire du Pic du Midi depuis plus de 30 ans et qui va vous parler un petit peu de tout ce qui est historique du Pic du Midi et un petit peu ce qui s'y fait entièrement. Donc, le Pic du Midi a été créé en 1970 par le général de Lansouty et l'ingénieur Vossenat, même si depuis quelques années, le Pic du Midi a attiré d'autres personnes, surtout à la fin du XVIIe siècle, Ramon Carbonnière, qui était passionné de botanisme, est venu sur le Pic du Midi. En 1870, donc, le général de Lansouty, qui était un général qui avait été mis au ban de l'armée pour avoir refusé de tirer sur la foule pendant les émeutes, dans la région de Toulouse, s'est pris de passion pour ce site. Donc il n'est pas venu au départ au Pic du Midi, tout à fait, il est venu ici en bas, ce qu'on aperçoit ici, l'ancien observatoire, donc à 2340 mètres. Et son but du jeu était d'étudier surtout la météorologie et les hauteurs de neige, comme ça. La première année, donc, ils ont construit un petit baraquement assez léger au col de Sancourt. Malheureusement, ils ont dû l'évacuer très rapidement au début de l'hiver. Les chutes de neige avaient été très importantes. Et une avalanche est partie du Pic du Midi, donc, a détruit entièrement. Dans l'été suivant, ils ont consolidé et refait cet abri et ce petit bâtiment en le déplaçant légèrement. Et donc là, ils ont pu hiverner tout l'hiver. Il y a toujours eu quelqu'un à partir de 1871, en gros, au col de Sancourt. À partir de 1871, petit à petit, ils se sont passionnés pour le Pic du Midi. Donc l'été, c'était assez facile pour y monter, l'hiver un peu moins. Mais ils essayaient, lorsqu'il faisait beau, d'y monter quand même aussi un petit peu l'hiver. Et ils se sont aperçus que le site était magnifique et qu'en plus, la vue, vous l'avez vu tout à l'heure, puisqu'on voit 250 km de chaîne et côté nord, vous avez vu, on va très loin. À partir de 1873, ils ont décidé d'essayer de faire un bâtiment au Pic du Midi. Donc le bâtiment, c'est le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, qui était un peu sommaire, mais au Pic du Midi, il fallait tout monter, puisque c'était une petite terrasse, et c'était surtout un éperon à 2877 mètres. Donc juste en dessous, il y avait une petite terrasse où ils ont pu faire un bâtiment avec quelques pièces, un bâtiment qui a duré 2 ans de construction, puisqu'il faut savoir qu'au Pic du Midi, en gros, on travaille maximum 3 mois sans trop de neige, et encore même tous les mois, c'est rare qu'il neige pas. Donc à partir de 1880, les conditions n'étaient pas quand même celles qu'elles sont de nos jours, ils ont commencé à venir essayer de faire toujours continuer à faire la météorologie, mais aussi de s'intéresser un petit peu à d'autres choses, comme l'astronomie. Et on va attendre le début du siècle suivant, donc au début des années 1905, pour essayé de construire la première coupole qui s'appelle la coupole Bayou. Entre-temps, le général de Nansouty, il y a eu des problèmes, était décédé de santé. L'ingénieur Vorsena, lui, donc, a continué un petit peu l'activité, est arrivé donc un nouveau directeur qui était M. Bayou et qui a décidé de se consacrer un petit peu à l'astronomie. Donc a été inventée une lunette, mais il fallait bien, pour poser cette lunette un petit peu grosse, faire monter le matériel. Donc, le matériel montait comment? Mais il montait tout simplement à dos d'homme et de mulet l'été par un chemin qui partait depuis Bagnères, enfin, au moins jusqu'à le col du Tourmalet, puisque le col du Tourmalet existait déjà, et une sente qui montait jusqu'au Pic du Midi. Donc là, ça a été la première construction, la première gros bâtiment qui a été un petit peu annexé à l'ancienne partie. Et à partir de 1910, donc, ont été commencées des observations sur la Lune, sur les planètes, ainsi que quelques étoiles, et aussi un petit peu essayer de voir sur le Soleil. Donc en 1928, Bernard Liot, qui était un chercheur qui travaillait au Pic du Midi, a inventé le cornographe. Alors, le cornographe, c'est quoi? Ça permet de reproduire une éclipse du Soleil. Donc je rappelle qu'une éclipse du Soleil, c'est lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre. Les éclipses au Pic du Midi, il n'y en a pas tous les ans, surtout au total. Et c'est entre 12 à 15 ans en moyenne, et ça dure des fois des phénomènes qui sont très rapides. La dernière que j'ai vue ici, elle a dû durer à peu près 6 minutes. Donc Bernard Liot a inventé ce cornographe. Il savait déjà que le Soleil avait beaucoup d'activités et on a pu voir ses activités en l'observant fréquemment. Et le soir, il continuait à observer les planètes et tout ça. C'était la deuxième grosse invention au Pic du Midi, le second gros travail qui a été fait. Ensuite, sont arrivées les années de la Seconde Guerre mondiale, donc beaucoup moins d'activités. Et en 1947 est arrivé Jean Roche. Alors, Jean Roche a été un directeur qui a fait de 1947 à 1981, qui a été avec le plus long mandat, était passionné d'astronomie et surtout qui avait beaucoup d'appui de côté des ministères, ce qui a été important puisqu'en 1950, il a été projeté de faire venir une étude pour faire les rayons cosmiques avec en particulier Louis le Prince Ringuet et laboratoire à Manchester. Mais pour ces rayons cosmiques, ils avaient besoin d'électricité. Donc Jean Roche a été frappé aux bonnes portes dans les ministères puisqu'il a obtenu une ligne électrique, il faut savoir que ça a été la première d'Europe, de 15 000 volts enterrée 12 km entre ce qu'on appelle la station de la Mongie à l'actuelle de station de ski jusqu'au Pic du Midi. À la suite de ça, on a pu créer surtout un téléphérique. Il faut savoir que jusqu'en 1952, les gens montaient à pied depuis Grippe ou depuis Artigues, durée du trajet entre 4 à 14 heures. Les portages se faisaient à dos d'homme, les conditions étaient plus dures et surtout les gens ne montaient pas pour la journée, ils montaient pour 2-3 semaines et même des fois un mois et demi. Donc est arrivé en particulier Gentilly, Camichel, des choses comme ça, et ont pu développer un petit peu la recherche autre que la recherche solaire, en particulier en créant un petit télescope. 1960, deux grosses coupoles ont démarré. La première a été créée par Jean Roche, c'est une coupole tourelle avec une activité principale sur la surface solaire. Sur le cornographe, on observe la couronne, tandis que là, on pouvait observer entièrement la surface solaire. Et en même temps, grâce à la NASA, un télescope de 1 mètre a pu être financé pour permettre de faire la cartographie de la Lune, ainsi qu'un laser, de manière à mesurer la distance exacte entre la Lune et la Terre. Et cet télescope de 1 mètre en particulier a fait une grosse partie de la cartographie de la Lune, avec deux autres télescopes en Amérique. Et toutes les missions Apollo ont pu facilement aligner sur la Lune. À partir de 1965, Jean Roche, toujours, a décidé de créer un télescope plus gros. Il faut savoir qu'à l'Observatoire de Provence, c'est-à-dire du côté de Saint-Michel Observatoire, Folcartier, Manosque, il se trouve un autre observatoire où il y a un télescope de 1,92 m. Donc Jean Roche, lui, bien sûr, voulait un télescope un peu plus gros. Donc un projet d'un télescope de 2 mètres de diamètre. 2 mètres de diamètre, ça supposait aussi une nouvelle coupole, parce qu'il n'y avait plus de place pour créer ça. C'est quand même beaucoup plus lourd qu'un petit télescope de 1 mètre de diamètre. Et donc une coupole a été créée tout à fait à l'ouest du bâtiment, à partir de 1969 les fondations et première lumière 1980. Télescope aussi un petit peu moderne, puisque ça a été le premier d'Europe informatisé. Rappeler que nous sommes encore dans les années des conceptions des fins des années 60 et que l'informatique n'est pas celle que nous avons à l'heure actuelle. Le télescope Bernard Liot a donc été l'un des fleurons nationaux et un des fleurons de la recherche, et est toujours un des fleurons de la recherche, puis je lui dis. petit à petit aussi, il a fallu quand même malheureusement s'apercevoir c'est que le Pic du Midi coûtait cher, en particulier sur les superficies. Faut savoir que Pic du Midi, c'est un bâtiment qui correspond entre le point le plus bas et le point le plus haut à un immeuble en gros de 10 étages, 10 000 mètres de plancher ourdi, 5 km de couloir, 3200 marches. Alors tout ça, pourquoi? Parce qu'il faut aller d'un point à l'autre, 24 heures sur 24, 365 jours par an, à l'intérieur. On ne peut pas se permettre. Et ça a toujours été un rajout de bâtiment. Et en 1993, notre ministère de tutelle, le ministère de la Recherche, a décidé de fermer au 31 décembre 1998 Pic du Midi. Donc plus d'activité. Grâce à la mobilisation de 6 élus locaux, ils ont su mobiliser la communauté scientifique et la communauté politique départementale et régionale. Et donc a été mis, à partir de 1996, en œuvre un gros chantier qui nous permet de travailler toujours dans la partie scientifique, mais d'avoir une cohabitation aussi avec le tourisme. Et le 1er juin 2000, donc une inauguration qui a été faite, un nouveau téléphérique beaucoup plus moderne, puisque celui-ci met 12 minutes entre la station de la Mongie et le Pic du Midi pour arriver. Il faut savoir que l'ancien mettait minimum 35 minutes, et il n'y avait qu'une seule cabine sur un tronçon, que là maintenant c'est un double téléphérique, beaucoup plus de modernité quand même. Gros chantier, parce que ça a duré 4 ans, donc toujours dans la recherche de maîtres, toujours une activité importante sur le chronographe. Depuis 1992, le chercheur qui était Jacques Kernouens, responsable de cette coupole à l'époque, a décidé de mettre un programme, grâce aussi à des fonds privés et de la recherche et le Conseil général des Hautes-Pyrénées en commun, et de faire une observation quasiment 365 jours par an sur la couronne solaire. Le télescope Bernard Liot, lui, qui continue à développer aussi, toujours dans la recherche. Le télescope 1 mètre, lui, donc, a quitté un petit peu la Lune et s'est spécialisé plus dans la planétologie, donc de tout ce qui est nos planètes de notre système solaire, ainsi que tout ce qui est système un petit peu spécial, style comète et astéroïde, et un peu maintenant aussi, bien sûr, vous avez tous entendu parler des exoplanètes. Ensuite, la coupole tourelle, donc, qui observait elle, la surface solaire, a vécu une modernisation et devrait être confiée prochainement à des étudiants de manière à pouvoir faire des études. Je pense qu'en 2013, devrait démarrer un nouveau chantier pour réaménager des chambres pour cette partie-là. Depuis 2005 aussi, la partie touristique accueille un produit nuit, ce qui permet d'avoir des personnes quasiment toute l'année ici, et d'avoir comme ce soir par exemple une soirée pour la nuit des étoiles. Donc au Pic du Midi, on ne fait pas que de la recherche, entre guillemets, on fait aussi de l'aérologie, l'aérologie qui nous permet de mesurer en permanence la qualité de l'air. Depuis l'année dernière, nous avons aussi une mesure de mercure dans l'air. Donc une instrumentation qui existera pendant 5-6 ans, en principe, on va mesurer la teneur du mercure dans l'air. Alors, gros avantage du Pic du Midi, c'est que ça nous permet aussi de voir la qualité d'air à ce niveau-là. On a une instrumentation qui existe aussi, mais alors elle est très vieille, puisqu'elle existe depuis le début des années 1900, c'est la mesure de l'ozone. Vous voyez que la couche d'ozone, même les anciens s'en occupaient plus ou moins. Qu'on mesure des fois de la qualité de l'air en permanence, soit ponctuellement certaines heures, certains jours, ce qui permet de voir à notre niveau aussi, d'où viennent les pollutions, entre guillemets, pollutions qui existent quand même, et si elles sont sensibles au vent ou si elles ne sont pas sensibles à la direction du vent. On a aussi un petit peu de médecine de montagne, c'est-à-dire l'étude du comportement humain en altitude, puisque à 2870 mètres, le corps humain ne se comporte pas du tout comme, allez, même à 1000 mètres. Il faut savoir qu'en gros, on perd entre 20 et 25% d'oxygène ici, donc le corps se fatigue plus facilement. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons monté des escaliers, vous m'avez dit, oh, mais je suis monté un peu plus vite peut-être que vous, et on est très facilement essoufflé, donc il ne faut pas marcher très rapidement ici. Ensuite, on a toujours une petite station météorologique automatique qui est fournie par la Société Météo France. Donc vous voyez, toujours une continue depuis 1870 d'observation météorologie qui nous permet de voir, de visualiser la température extérieure, la direction du vent, l'humidité.
Eh bien merci, voilà une description très complète donc de ce Pic du Midi. Alors après avoir parlé un peu de ce que l'on fait au Pic du Midi, eh bien on va passer aux travaux pratiques. Et là on est dans une immense coupole, on se trouve où exactement?
Donc là on se trouve au télescope Bernard Liot. Le télescope Bernard Liot est un télescope de 2 mètres de diamètre. Lorsqu'on parle de télescope de 2 mètres de diamètre, on parle de miroir principal collecteur d'images. Donc celui-ci est un télescope qui a été créé à partir de 1970 pour les travaux du bâtiment et une première image en 1980. Donc vous voyez là, ici en bas, dans cette partie grise, on a un miroir donc de 2 mètres. La lumière vient à l'intérieur de ce grand tube, sur ce miroir légèrement creux, concave. Donc on va renvoyer la lumière sur un deuxième miroir qu'on voit là-bas en haut, de 41 cm de diamètre, légèrement bombé, donc convexe. Et on va renvoyer la lumière au centre du miroir principal. Et on va collecter, dans cette partie grise ici à l'arrière, la lumière qu'on va envoyer sur l'instrument, qui se trouve dans une pièce climatisée plus bas que nous, grâce à cette fibre optique qu'on voit la partie jaune.
Alors effectivement, c'est pas très radiophonique ce que l'on dit, mais pour décrire un peu aux auditeurs, effectivement, on voit cet immense télescope avec donc son miroir qui pèse très lourd. Hein.
Oui, un miroir qui pèse 1,3 tonne. Il faut savoir que ce télescope, comme vous dites, est le plus grand de France. Il faut savoir que toute la partie mobile, depuis là-bas en haut jusqu'ici en bas, fait 60 tonnes, de manière à ce qu'on ait un télescope entièrement stable, puisqu'on va aller chercher des objets qui se trouvent en dehors de notre système, bien sûr, solaire, et des objets lointains et petits. Donc il va falloir avoir une stabilité de l'instrumentation de manière à ce que ça soit vraiment calé, sachant qu'un petit millimètre ici de différence va représenter des milliers de kilomètres dans notre univers. Sur ces gros télescopes, il y a deux petites particularités. Vous voyez que nous sommes dans une pièce où il fait quand même un petit peu frais. Il faut qu'il fasse dans l'intérieur d'un télescope plus froid qu'à l'extérieur, sinon on n'aurait pas une bonne qualité d'image. Et je répète, c'est des objets très lointains, donc il faut une stabilité d'image parfaite. Donc le plancher sur lequel vous marchez à l'heure actuelle, c'est un plancher de 20 cm d'épaisseur en béton, légèrement refroidi à moins 15 degrés. Donc nous ici, il fait à peu près 5 degrés à la pièce, alors qu'à l'extérieur, vous voyez aujourd'hui au pic, il fait 14 degrés. 5 degrés, ça paraît un petit peu froid, mais la stabilité d'image sera parfaite. Un télescope, d'abord, c'est vrai qu'en radio, c'est pas très parlant, mais aussi comme ça, c'est pas très parlant, parce qu'il a deux mouvements. Il a un premier mouvement qui est un mouvement d'est en ouest, on va dire, c'est-à-dire un mouvement qui compense la rotation de la Terre, hein, puisque la Terre, pour nous, hémisphère nord, tourne d'ouest en est. Et un deuxième mouvement qui est le mouvement de la hauteur de l'objet par rapport au sud. Le sud, vous avez face à vous la plus belle chaîne des Pyrénées. Deuxième mouvement qui est comme ceci, deux mouvements qui sont associés, commandés par informatique et par un ordinateur, et qui permettent ainsi d'avoir une précision parfaite. Pourquoi des télescopes de cette grandeur encore en fonctionnement au sol, on va dire, puisqu'on est quand même un petit peu dépendant de la météo, et alors qu'on fait des gros télescopes, il faut savoir que Hubble a un miroir à peu près de la taille de celui-ci, puisqu'il fait 2,20 m, si mes souvenirs sont exacts. Le petit avantage de Hubble, c'est qu'il peut fonctionner 365 jours par an, 24 heures sur 24. Le petit inconvénient, c'est que les temps de recherche sont comptés, mais il faut après des fois approfondir certaines recherches. Donc ces télescopes ont encore un avenir. Par contre, l'avenir a failli être morose en 1993, lorsque nos ministères de tutelle ont décidé plutôt de se consacrer sur les gros télescopes au sol, qui sont les Velte du côté du Chili. Des télescopes de 8 mètres de diamètre, et vous imaginez donc la taille par rapport à 2 mètres, et c'est 4 fois plus grand. 4 télescopes de cette configuration qui peuvent être accouplés entre eux, mais que le fonctionnement aussi dépend du ministère, donc à un moment donné, on privilégie un peu la recherche. Il faut savoir que plus on agrandit la taille de miroir, plus on va aller chercher des objets lointains ou très petits, quoi. Une coupole quand même un peu particulière, puisque vous voyez simplement une ouverture de 2,10 m de diamètre. Il faut savoir qu'avant, on faisait des trappes, une ou deux trappes. Ici, on avait mis des ouvertures de 2,10 m d'ouverture sur 15 mètres de hauteur à peu près. Comme nous sommes en montagne, lorsque nous aurions observé vers l'ouest, sud-ouest, il faut savoir que c'est les vents dominants au pays du Midi, des vents de 20-30 km/h seraient rentrés dans la coupole, auraient créé des turbulences. Or, ces turbulences, c'est quoi? C'est simplement des images pas stables, c'est-à-dire des images qui sont un petit peu floues. En ce moment, il fait très chaud en plaine, là, comme vous voyez, une route goudronnée. Donc, la qualité ne sera pas bonne et on n'aura pas une bonne recherche.
Vous avez remplacé ce système de trappe qui s'ouvre par, on pourrait dire, un espèce d'œilleton?
Oui, là-bas, vous voyez, cette œilleton de simplement deux trappes de 2,10 m de diamètre qui vient se placer sur le devant du télescope dès qu'on commence à observer. Et tout le reste, tout le temps, c'est entièrement piloté par un ordinateur. Un objet, on pourrait l'observer 12 heures de temps. Techniquement, c'est faisable si on veut.
Et les observations ne se font uniquement que de nuit ici?
Oui, tout à fait. On ne travaille que de nuit, puisque d'abord, on travaille avec des spectrographes la plupart du temps ou de l'imagerie, mais pas d'infrarouge. Ce télescope n'est pas fait pour ça. Donc en ce moment, les nuits sont un petit peu courtes, même si elles rallongent depuis quasiment plus d'un mois et demi.
sachant qu'en hiver, c'est les nuits, en gros, c'est de 17h à 8h du matin, même si on commence un petit peu avant le coucher du soleil. Et là, en ce moment, on va dire que c'est de 20h, 20h30 jusqu'à 6h du matin, à peu près.
Voilà donc pour la visite de cet immense télescope. On va s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale, ce qui va nous donner l'occasion de nous rendre dans un autre lieu pour la suite de cette émission « À toi les étoiles ». À tout à l'heure.
IDFM, 98FM.
Retour dans le sud-est de la France, dans les Pyrénées, au pic du Midi de Bigorre, pour l'émission « À toi les étoiles », la formule de l'été. Le thème, je vous le rappelle, pic du Midi, dernier étage avant les étoiles. Je change d'interlocuteur et je me trouve maintenant avec Sébastien Vauclair. Alors, une petite question tout d'abord, Sylvie Vauclair, un lien de parenté avec vous ?
Oui, absolument, mais il se trouve que c'est ma maman, tout simplement. Donc, comme on m'a déjà dit à plusieurs reprise, je suis tombé dans la marmite de l'astronomie quand j'étais petit.
On est là ce soir pour cette nuit des étoiles qui va avoir lieu ici au pic du Midi. Alors, que va-t-il se passer pour le public ?
Alors là, c'est un tout petit peu particulier parce que normalement, nous organisons assez régulièrement toute l'année des soirées grand public pour accueillir des visiteurs un petit peu qui veulent commencer à aborder les beautés du ciel étoilé qui deviennent rares malheureusement en ce moment. Hein, on en reparlera tout à l'heure, mais au pic du Midi, c'est un endroit où on peut encore bien voir les étoiles. Donc on accueille à peu près 30 fois par an comme ça du grand public pour passer la soirée. Donc ils redescendent en milieu de nuit. Il y a aussi des possibilités de passer la nuit entière. On en reparlera aussi. Mais là, comme c'est un événement un petit peu particulier au niveau national, il y a trois nuits hein, qui s'appellent les nuits des étoiles et qui s'appelait les Nuits des Étoiles Filantes il y a quelques années, mais qui continue comme événement un petit peu national. Il y a des soirées d'observation qui sont organisées un petit peu partout en France. Et donc nous, on a profité de cette occasion-là pour organiser donc trois nuits un peu particulières ici, événementielles, au Pic du Midi. Pendant ces trois nuits, c'est un peu particulier parce qu'on fait en même temps des soirées, ce qu'on appelle les soirées étoilées, et des nuits un petit peu particulières, puisqu'on a des clients très grand public qui viennent classiquement jusqu'à 23h30 pour admirer un petit peu le panorama, le coucher de soleil et le ciel étoilé du Pic. Mais on a aussi un certain nombre d'astronomes amateurs, voire professionnels, parce qu'il y a des fabricants de matériel aussi qui viennent, d'une part pour tester leur matériel sur un site exceptionnel comme le Pic du Midi, mais aussi pour le présenter un petit peu au public. Et donc on a comme ça des gens qui vont rester pendant trois nuits, quasiment en nuit blanche toute la nuit, pour observer le ciel tous azimuts et éventuellement pour faire aussi de l'astrophotographie relativement poussée.
Est-ce qu'on peut parler un peu du programme ? Il y a un programme ou c'est simplement de l'observation comme ça ?
Sur les deux premières nuits, donc le jeudi et le vendredi, on accueille le grand public, donc une centaine de personnes en fin d'après-midi. On leur propose des petits ateliers où on leur parle un petit peu du site du Pic du Midi lui-même, qu'est-ce qui se passe dans les coupoles qui sont encore actives au niveau scientifique. Et ensuite, on leur présente aussi un petit peu les différents types d'instruments d'astronomie qu'on va utiliser le soir même pour l'observation. Ensuite, ces gens-là dînent au restaurant en mangeant des produits régionaux des Hautes-Pyrénées ici au Pic. Et après, on les retrouve donc pour le coucher de soleil, qui est quand même un des clous du spectacle, qui est toujours phénoménal ici depuis le Pic, hein, à 2877 mètres d'altitude. On a toujours un superbe coucher de soleil avec très très souvent le rayon vert. Hein, donc on le voit en général deux fois par jour, le rayon vert ici. Hein, c'est exceptionnel, le matin et le soir. Et après le coucher de soleil, on leur donne rendez-vous sur les terrasses pour observer. Alors en ce moment, évidemment, c'est Saturne, la reine de la nuit. Mais dès que la nuit est un peu plus tombée, on peut aller aborder un petit peu plus les objets du ciel profond. Ça reste en général des néophytes. Hein, donc on reste sur les objets très classiques, l'amas d'Hercule, les différentes nébuleuses du Sagittaire. Puisque depuis le Pic du Midi, on a un superbe point de vue sur le Scorpion et le Sagittaire, ce qui n'est pas si courant en France. Et après 23h30, quand le gros du public est redescendu, on se retrouve un petit peu sur la terrasse avec les gens qui sont un peu plus fondus d'astronomie, qui ont amené leur propre télescope. Et là, on va observer des objets un petit peu plus lointains, voire lancer des vraies poses pour faire de l'astrophotographie, pour profiter de la qualité du ciel du Pic. Et tout ça jusqu'au lever de Jupiter, lever de Vénus, lever de Lune qu'on voit ici sur Toulouse et qui nous amène très régulièrement jusqu'au lever du Soleil. Donc c'est une semaine qui n'est pas toujours très reposante.
Vous avez parlé de rayon vert. Est-ce qu'on peut expliquer pour nos auditeurs en quoi ça consiste ?
C'est relativement simple si on veut rester superficiel. On va dire que l'atmosphère un petit peu joue le rôle de prisme, hein, puisque l'atmosphère, c'est de l'air qui entoure la Terre. Et donc quand le Soleil descend sur l'horizon, le cas classique, hein, c'est le Soleil qui rougit puisqu'il descend sous l'horizon. Donc les rayons du Soleil sont courbés et perturbés par la réfraction atmosphérique. Hein, c'est exactement ce qui se passe dans un prisme. Mais il se trouve que quand on a l'occasion d'avoir d'une part un ciel très pur et la possibilité éviter de voir vraiment le coucher de soleil à l'horizon. Il peut y avoir des déformations un peu plus importantes que ça, et au lieu d'avoir un soleil qui devient uniquement rouge, il peut passer par différentes couleurs. Donc le plus classique, c'est un flash vert un petit peu en général. Vraiment, le dernier bout de soleil qui se cache devient vert d'un seul coup, et en général, on peut même le voir à l'œil nu. Mais en faisant des photographies, on peut même arriver à avoir des flashs bleus, voire même violets. Et ça, c'est assez courant finalement aussi au pic du Midi. Et on voit même d'ailleurs des rayons verts sur la lune, sur le lever ou le coucher de lune. Et là, ça commence à être un peu plus rare quand même. Et là, le pic est un lieu exceptionnel pour ça. Quand on parle de soirées étoilées et puis de possibilité de passer la nuit au pic, bon, finalement, c'est quelque chose d'assez classique puisque des soirées étoilées aujourd'hui, on en organise une trentaine par an. Il y a d'ailleurs aussi la possibilité, si des gens sont intéressés, de privatiser complètement le site pour faire des soirées privées, hein, dans le cadre de comités d'entreprise par exemple ou autre. Hein. On a fait des mariages par exemple au pic. Il peut y avoir tout un tas de choses assez amusantes où on peut aussi montrer le ciel étoilé. Il y a à peu près la possibilité de passer 200 nuits par an pour les gens qui veulent pousser un petit peu plus dans la nuit, mais alors là, ça a tellement de succès qu'il faut réserver vraiment longtemps en avance. Alors la chose qui est un petit peu exceptionnelle sur ces nuits des étoiles, c'est qu'on avait quand même souvent des demandes d'astronomes amateurs qui voulaient monter au pic du Midi avec leur propre instrument pour profiter du site, mais qui n'étaient pas forcément prêts à payer une chambre parce qu'ils voulaient tout simplement pas l'utiliser pour observer toute la nuit. Donc on a réussi à mettre en place comme ça, avec l'aide de la régie du pic du Midi, hein, qui est notre partenaire évidemment pour tout ça, d'organiser une nuit spéciale pour amateurs, qui permet aussi d'être moins limité, parce que pour les nuits, on est limité vraiment à 19 personnes par rapport à la capacité d'hébergement. Mais là, on est beaucoup moins limité. Donc là, par exemple, demain soir, on va accueillir une cinquantaine d'astronomes amateurs qui vont chacun monter avec leur instrument pour passer la nuit entière sur le site. Et là, c'est l'occasion de se retrouver quand même avec des instruments aussi beaucoup plus performants, beaucoup plus gros, et puis avec des gens passionnés. Donc là, on va passer quand même une très grosse nuit d'observation demain samedi soir ici au Pic du Midi.
Vous évoquiez tout à l'heure la pollution lumineuse. Alors j'imagine que à presque 3000 mètres d'altitude, là, vous n'avez pas de problème avec ça.
Détrompez-vous malheureusement, puisque demandez à n'importe quel astronome qui a eu la chance de venir au Pic du Midi depuis quelques décennies, j'ai envie de dire, hein, ne serait-ce que 10 ou 15 ans, ce qui est ma chance aussi, on a vu l'évolution. Le cas typique, c'est qu'il y a 15 ans de ça, quand on regardait à l'horizon sud depuis les terrasses du pic, on voyait la Voie lactée, et surtout on arrivait à distinguer les crêtes des montagnes en ombre chinoise devant la Voie lactée. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune pollution lumineuse, les étoiles s'éteignaient brusquement quand elles passaient derrière les montagnes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque malgré la largeur de la chaîne des Pyrénées, ben on voit la pollution lumineuse des villes espagnoles. Donc il faut quand même savoir que depuis le pic, vous le verrez ce soir hein, avec nous, mais depuis le pic, on voit très bien le halo lumineux de Barcelone, par exemple, qui est à 200 km à vol d'oiseau. Et donc ça fait comme une espèce de bande un petit peu orangée, hein, puisque l'éclairage public est en général au sodium, donc un petit peu orangé, qui fait que les étoiles, ben, malheureusement, même depuis le pic du Midi, s'estompent un petit peu dans la pollution lumineuse avant d'arriver sur les montagnes. Et ça, c'est pour parler de l'horizon sud, qui est quand même particulièrement préservé. Mais quand on regarde à l'horizon nord, c'est impressionnant de voir les villes de Bagnères-de-Bigorre, Tarbes, Lannemezan, Saint-Gaudens, et on voit même très bien Toulouse. Je me suis amusé hier pour la petite histoire à faire des photos de pollution lumineuse de Toulouse, et on voyait avec une petite lunette très classique, on voyait la grande roue qu'ils ont installée en ce moment sur les bords de Garonne par exemple. Si on voit depuis le sommet, comme vous le disiez, depuis 3000 mètres d'altitude, si on voit l'éclairage des villes qui sont tout en bas, ça prouve une chose qui est très simple, c'est qu'on gaspille énormément l'argent du contribuable hein, aussi, puisque l'éclairage qui vient du bas vers le haut, ben, c'est un pur gaspillage. Je rappelle que l'éclairage public, eh ben, c'est le bon sens que de savoir qu'il doit éclairer du haut vers le bas, puisqu'on a besoin que ça nous sécurise, nous, habitants des villes, mais on n'a absolument pas besoin d'éclairer le ciel étoilé, ce qui fait une perte du ciel étoilé, qui est quand même le premier patrimoine de l'humanité. Mais il y a aussi énormément de conséquences auxquelles on pense moins, sur la faune, la flore, mais même au-delà, sur la santé des êtres humains.
Peut-être justement pour sensibiliser des décideurs, par exemple, les inviter à passer une nuit au pic du Midi pour leur montrer justement l'impact de cette pollution lumineuse.
Absolument, en fait, ça s'est déjà fait, donc il y a régulièrement quand même des élus hein, qui viennent ici, mais on a lancé justement pour vraiment faire prendre conscience de cette problématique en Midi-Pyrénées, on a lancé un grand projet grâce en fait à l'année mondiale de l'astronomie qui a eu lieu en 2009, ça nous a poussé vraiment à lancer un grand projet qui est la création de la première réserve internationale de ciel étoilé en Europe. En quoi ça consiste une réserve internationale de ciel étoilé? Très simplement, c'est un petit peu à l'instar d'un parc national si vous voulez, où on se rend compte qu'il y a une très belle biodiversité dans une montagne, par exemple ici on a le parc du Néouviel juste à côté, et où on souhaite préserver cette biodiversité. Une réserve de ciel étoilé, c'est la même chose. On se rend compte qu'au Pic du Midi, malgré ce que je viens de vous dire, il y a encore un très beau ciel étoilé et on voudrait éviter que ça empire. Et donc on crée cette zone géographique dans laquelle il y a un certain nombre de préconisations, un travail de fond avec les élus pour éviter qu'il y ait justement ce flux lumineux émis vers le ciel. Et si on arrive à gagner un petit peu sur la pollution lumineuse, on va obtenir le label de réserve internationale de ciel étoilé qui est délivré par une instance internationale. Et pour l'instant, la première grande réserve internationale est au Québec, autour du Mont Mégantic. Donc ça, c'est un très grand projet qui a débuté en 2009, qui accélère, il faut dire, très très fortement en 2012 grâce à l'embauche en particulier par la régie du Pic du Midi midi, d'un chargé de projet en fait qui est doctorant, hein, qui fait une thèse sur le sujet, Nicolas Bourgeois. Grâce à lui, en fait, le projet se concrétise, puisque jusque-là, on était une association de bénévoles, donc c'était évidemment sur un projet d'une telle ampleur compliqué à faire avancer. Mais là, on a très très bon espoir pour obtenir ce label de réserve internationale de ciel étoilé courant 2013. Puis dans ce cadre-là, on a eu l'occasion d'inviter, par exemple, en juin 2009, on a eu, excusez-moi l'expression, mais une belle brochette de tous les politiques locaux. Donc ça allait du maire de Bagnères-de-Bigorre, la ville qui est en charge de la station de ski de la Mongie et du Pic du Midi, jusqu'au préfet de région et au président de la région Midi-Pyrénées, en passant par les présidents du conseil général, les maires de Tarbes et même de Toulouse, puisque étant Toulousain moi-même, on travaille énormément aussi avec la mairie de Toulouse, qui apporte malheureusement de la pollution lumineuse aussi au Pic du Midi, même si on est à plus de 150 km à vol d'oiseau. Donc il y a tout un travail de fond. Alors évidemment, il y a aussi un travail de fond avec tous les élus locaux. Il y a à peu près 240 communes aujourd'hui qui sont impliquées dans ce projet de réserve de ciel étoilé. Donc ça commence à prendre une très très belle ampleur. Et maintenant, tout le monde est conscient que ça fait non seulement des économies d'énergie, donc de finances publiques. Donc tout élu, a priori, est intéressé par ça. Mais c'est vrai que ça participe aussi un petit peu à la vague de biodiversité, hein, dont on parle beaucoup en ce moment avec le Grenelle de l'environnement, etc. Mais surtout, les gens ont vite compris que ça pouvait aussi avoir un intérêt touristique, puisque le Pic du Midi est quand même le point d'attrait touristique principal de Midi-Pyrénées. Donc le fait d'avoir en plus cette réserve de ciel étoilé autour fait que finalement tout le monde trouve son intérêt. C'est vraiment un processus gagnant-gagnant. Les astronomes et le grand public vont garder un petit peu ce patrimoine qu'est le ciel étoilé aussi beau ici. Les scientifiques vont pouvoir travailler encore avec un beau ciel étoilé. Et finalement tout le monde va y trouver son compte, même les élus locaux.
Eh bien merci Sébastien Vauclair pour votre intervention. Je vais maintenant me rendre à l'extérieur sur la terrasse pour rejoindre Nicolas Bourgeois qui va justement nous parler plus en détail de cette réserve internationale de ciel étoilé. Alors Nicolas Bourgeois, vous occupez de la réserve étoilée. Hein,
voilà, je suis le chargé de projet de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi.
Expliquez-nous un peu plus en détail ce projet.
Alors ce projet, on va dire que c'est un projet assez large qui a plusieurs grands axes. Le premier axe qui va être vraiment celui de protéger la qualité du ciel étoilé face à un constat d'une augmentation de la pollution lumineuse de plus en plus importante en plaine et dans les vallées. Ensuite, un deuxième axe qui va être vraiment la protection de l'environnement qui est mis en danger de plus en plus par cette augmentation de la pollution lumineuse. Et enfin, c'est vraiment de mettre en place une démarche de développement durable avec de la sensibilisation du public, de la valorisation du territoire qui s'engage dans la démarche et de la mise en place d'un nouveau mode d'éclairage économe, durable et non polluant. Voilà, c'est vraiment un projet qui est à la fois de protection de l'environnement, de développement durable et de valorisation du territoire.
Sensibilisation des maires des communes, je pense.
En fait, ça va être les acteurs du territoire qui peuvent être à la fois les techniciens, les élus, donc comme les maires des communes ou d'autres entités territoriales. Et ça va être également la sensibilisation du grand public et des habitants. Parce que les habitants, évidemment, si on leur change leurs éclairages, il y a quand même toute une approche sociologique de la lumière qui consiste quand même à lui donner des aspects très symboliques comme la lumière. C'est la vie, c'est la sécurité, tout ça. Et là, c'est d'expliquer aux habitants dont on va convertir les éclairages que l'idée n'est pas d'éclairer moins, mais d'éclairer mieux, en fait. C'est-à-dire de mieux orienter les flux lumineux, de diminuer les niveaux d'éclairement pour être dans moins d'intensité lumineuse, d'empêcher tout ce qui va être les phénomènes de lumière intrusive, c'est-à-dire la lumière qui rentre dans les habitations la nuit, etc. C'est vraiment d'amener le projet sur le territoire pour que le territoire se l'approprie et le fasse vivre et le pérennise.
Ça va être un changement des lampadaires dans les villes ?
Voilà, en gros, au niveau des différents axes sur ces conversions d'éclairage, il y a la première chose qui est évidemment d'orienter les flux lumineux vers le bas pour éviter tout ce gaspillage de cette lumière qui est envoyée vers le haut inutilement. Ensuite, il y a tout un travail sur le spectre de la lumière, c'est-à-dire les différentes couleurs qu'il y a dans la lumière. C'est vraiment de travailler sur les spectres qui se diffusent le moins possible dans l'atmosphère. Donc c'est limiter le pic spectral dans le bleu des lampadaires. Et après, il y a tout ce qui est l'usage de la lumière, c'est-à-dire se poser les questions de la nécessité d'éclairer, des horaires d'éclairage, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé d'éclairer tout le temps ? Et enfin, est-ce qu'on est obligé d'éclairer partout ? Voilà, c'est vraiment interroger l'usage de la lumière. Ça, c'est les grands axes sur ce niveau-là. Et on a mis en place un groupe de travail sur les éclairages qui travaille à la mise en place d'un document prescriptif à destination des élus pour les guider dans leur conversion d'éclairage.
Mais est-ce que vous pensez que tous les élus vont jouer le jeu ?
Finalement, on a eu un bon travail de sensibilisation qui a permis d'énormément favoriser l'accueil du projet. Et aujourd'hui, ils savent que c'est très valorisant pour eux d'un point de vue en termes d'image, car en fait, à la fin, ils vont bénéficier du label de l'International Dark Association. C'est un organisme international de protection du ciel étoilé qui va justement labelliser notre travail. Donc il y a cet aspect valorisant, mais il y a aussi tout l'aspect économie d'énergie. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que l'éclairage dans une commune peut représenter jusqu'à 40% des dépenses en énergie de la commune. Donc là, il y a vraiment un enjeu de réduction des dépenses en énergie de l'ordre de 50% sur un village, rien qu'en améliorant la qualité des éclairages. Donc il y a quand même un enjeu à la fois de valorisation, d'amélioration de la qualité de vie et de diminution des dépenses en énergie. La chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que c'est un projet qui stimule énormément le territoire. Il y a de plus en plus en fait d'acteurs engagés dans la démarche. Aujourd'hui, on a le syndicat départemental d'électricité qui est directement partenaire de la démarche. On a EDF qui est un acteur également. On a le parc national qui est intégralement engagé. Et ensuite, on a les différentes entités territoriales qu'on appelle les pays. Aujourd'hui, on a le pays des Vallées des Gaves, le pays des Nestes et le syndicat du pôle touristique du Haut-Tourmalet, du Pic du Midi, qui sont engagés sur le projet, en fait, pour faire que le territoire vraiment s'approprie la chose. Et enfin, en termes de chiffres, pour finir, la réserve de Ciel Étoilé aujourd'hui fait 600 km², la zone cœur, c'est-à-dire la zone qui est intrinsèquement sombre. Et on a une zone tampon autour, c'est-à-dire une zone habitée dans laquelle des démarches sont engagées sur les éclairages. Et on va atteindre là 240 communes engagées dans la démarche. Donc, il faut savoir, en termes d'ampleur, c'est le plus gros projet de réserve de Ciel Étoilé au monde actuellement. Et en termes de position, sera la cinquième à être labellisée dans le monde et la première en France.
Eh bien, merci beaucoup. On va interroger un peu maintenant le public, recueillir un peu l'avis du public. Alors, vous avez visité le Pic du Midi. Quel est votre avis ?
Magnifique. Paysage vraiment grandiose. Je ne m'attendais pas à ça, quoi.
Et vous êtes monté en tant que passionné d'astronomie ou pour le panorama ?
Non, pour le panorama et par Paris. Pour suivre la famille, oui, en plus.
Donc vous avez réussi votre pari.
J'ai réussi mon pari. Non, il n'y a plus qu'à redescendre.
C'est sûr, c'est la nuit des étoiles, mais bon, on ne va pas rester jusqu'à ce soir. Non. J'aime bien les étoiles filantes, tout ce qui est sûr, mais on est venu juste pour le panorama, pour le site aussi. Parce que bon, on est pas loin, on est à 200 km à peu près. On n'est jamais venu au Pic du Midi, on voulait voir que c'était. Voilà.
Le faire au moins une fois. Ouais, au moins une fois, ouais, ouais.
Si on peut, on resterait bien pour la nuit des étoiles.
Ben oui.
Ça serait bien, ouais.
Merci beaucoup. Sachez que lorsque j'ai préparé ma venue au Pic du Midi, j'avais prévu la nuit du vendredi au samedi de profiter du programme de la nuit des étoiles pour enregistrer des séquences pour cette émission « À toi les étoiles ». Tout se présentait au mieux. Météo France prévoyait un ciel clair, la lune était absente. Hélas, trois fois hélas, des entrées maritimes non prévues au programme se sont invitées et ont couvert le ciel. Cependant, on a pu observer quand même un peu entre deux trouées nuageuses. Mais je n'ai malheureusement pas pu enregistrer de séquence concernant la nuit des étoiles au Pic du Midi. Ce n'est pas trop grave puisqu'il y a plein d'autres choses à voir. Alors je vous propose tout de suite une pause musicale et on se retrouve juste après avec le responsable de la partie touristique qui va nous faire visiter le musée du Pic du Midi.
IDFM, 98 FM à Paris et dans toute l'Île-de-France. IDFM, Radio Regard.
Retour dans le sud-est de la France, dans les Pyrénées, au Pic du Midi de Bigorre pour l'émission À toi les étoiles, la formule de l'été. Le thème, je vous le rappelle, Pic du Midi, dernier étage avant les étoiles. Je change d'interlocuteur, alors je vais lui demander de se présenter.
Je m'appelle Pierre Vidalis et je suis responsable de site de la partie touristique du Pic du Midi.
Justement, on va parler de la partie touristique, puisqu'on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, on accueille du public. Alors, on se trouve ici dans un immense ascenseur, et il va se passer donc un petit descriptif, c'est ça ?
Oui, oui, on rentre dans l'ascenseur et on va accéder à l'espace muséographique qui retrace l'histoire de l'astronomie et l'histoire du pic.
On monte actuellement, on n'entend pas là dans ce reportage, mais normalement il y a un commentaire qui nous parle un peu du ciel.
Voilà, une introduction du musée, quelques petites projections d'étoiles dans le toit de l'ascenseur.
Alors ici on a une immense maquette du Pic du Midi qui montre donc les différentes coupoles, toutes les installations qu'on peut trouver. Alors c'est pas très radiophonique, mais on va essayer de décrire quand même pour les auditeurs.
Alors je vais essayer de vous décrire ça. Le Pic du Midi, c'est un petit vaisseau, un petit porte-avions perché sur une montagne. C'est 1 hectare de surface utile, 8 niveaux, plus de 5 km de couloir. On peut s'y perdre facilement. Sur la maquette, on peut voir l'ensemble du site. Donc, il y a plusieurs parties. Hein. Il y a une partie consacrée, ce qu'on appelle le bâtiment interministériel, qui est consacré à tout ce qui est télécommunications. Il y a aussi des radars et la station météo. C'est là où il y a la grande antenne qui fait 103 mètres de haut. Il y a aussi le plus gros télescope du Pic, qui est le télescope Bernard Liot, télescope avec un miroir de 2 mètres. Ensuite, il y a bien sûr toute la partie consacrée à l'accueil du public. Donc ça représente une grande partie du site. Et puis une autre partie qui est un peu parsemée de coupoles, qui est la partie qu'on appelle scientifique. Voilà. Donc ensuite, il y a aussi des salles de réunion, un restaurant, des terrasses, et puis tout un tas d'infrastructures pour faire fonctionner ce gros vaisseau, voilà.
Alors, c'est à peu près... Vous avez encore une animation de 5 minutes sur la terrasse sud, contre bas de la terrasse principale, la terrasse sud.
Bon, on a été interrompu par une annonce. On fait des animations sur les terrasses pour expliquer aux gens ce qu'on peut voir depuis le pic. Le pic, c'est un belvédère incroyable. C'est un point avancé de la chaîne et on peut voir à peu près 350 km de chaîne. La chaîne des Pyrénées et puis une grande partie du sud-ouest. Un dixième de la France qu'on peut voir depuis notre site. Et c'est aussi pour ça que les gens montent, pour la vue et puis aussi pour l'expérience de la haute montagne, et puis l'aspect un peu étrange de ce site, hein, l'aspect aussi scientifique.
Un dixième quand même, hein. Sur les coupoles, donc vous avez parlé de la partie scientifique, mais il y a une coupole qui est réservée aux amateurs.
Aux amateurs avertis, qui est un télescope de 60 cm. Qu'on peut voir depuis les terrasses la journée. Donc c'est des missions scientifiques qui sont réalisées par des amateurs. Ensuite, on a un autre télescope dans une coupole, qui est dans la coupole Charvin, au bout là-bas, qui est réservée aux personnes qui passent la nuit. Parce qu'il faut savoir que on accueille du public la journée, en soirée, et aussi il y a la possibilité de rester la nuit.
On va poursuivre cette visite du musée. On peut entendre d'ailleurs les bruits d'ambiance, des commentaires vidéo qui expliquent un peu. Et puis là, on tombe sous une coupole justement.
Voilà, donc ça c'est le sidérostat. C'est un instrument qui permet de voir la surface du soleil en direct. Voilà, donc là aujourd'hui on ne l'a pas encore ouvert. Mais on peut voir, ça donne ces images-là.
Donc des images où on voit la surface du soleil avec les taches.
Voilà. Ici, c'est un espace qui est consacré au soleil. C'est une grosse partie de la recherche au Pic du Midi. Et on a voulu un peu expliquer ce qu'était notre étoile et ce qu'on faisait là-haut.
Donc on poursuit la visite, ça se passe par là maintenant.
Voilà. Alors là, maintenant, on va rentrer dans la première coupole du Pic. Elle a un peu plus de 100 ans. C'est la coupole Bayeux. La coupole Bayeux avec... une maquette du coronographe, ça a été plus de 7 années de construction, une des premières coupoles qui a existé sur le site. Voilà, et donc on peut la visiter, on peut s'apercevoir que c'est une grosse infrastructure, c'est assez impressionnant.
Et cette coupole Bayeux n'est plus en activité aujourd'hui ?
Elle est plus en activité aujourd'hui. Des projets de rénovation sont à l'étude.
Nous poursuivons notre visite de ce musée du Pic du Midi et on va rentrer dans d'autres salles.
Donc ça, c'est la salle qui est consacrée au télescope d'un mètre qui a été financée en partie par la NASA pour cartographier la Lune dans le cadre des missions Apollo.
D'accord.
Voilà, donc c'est un peu un espace qui est consacré au système solaire et aussi à ce télescope de 1 mètre. Et là, on peut voir des clichés qui avaient été pris à l'époque depuis le Pic du Midi, qui étaient d'une qualité assez incroyable.
Là, on descend un étage. Le but du jeu, c'est de ne pas se casser la figure dans les escaliers.
Là, je vous montre ce petit recoin, là, cette petite baie vitrée où les gens ne s'arrêtent pas beaucoup. C'est le coin où on se met pour regarder les orages qui tombent sur l'antenne. Voilà, c'est un coin où on est en sécurité, on peut voir les orages, quand il y a des orages, bien sûr.
Ça doit être impressionnant, les orages, ici.
Oui, oui. Vous connaissez Jean-Michel Jarre ?
Tout à fait, je suis un passionné.
Eh bien, c'est pareil. Le son et la lumière, c'est quelque chose d'incroyable.
D'accord.
Ça tombe bien, puisqu'on arrive à la partie qui est consacrée à la foudre, qui a été réalisée par un de nos partenaires qui nous équipe et a équipé le site pour la protection contre la foudre, qui est une entreprise du coin, hein, de Bagnères, donc d'en bas du Pic. Donc ça fait partie de notre univers aussi, les orages.
Tout ça à découvrir, bien sûr, au Pic du Midi. On continue cette visite.
Donc là, on est sur une partie où on peut voir une carte avec tous les observatoires de la planète. C'est aussi pour se rendre compte que on n'est pas isolé, que ce soit en France ou dans le monde. Et on travaille bien sûr avec tous ces observatoires, hein, c'est en corrélation. C'était juste pour se rendre compte que n'y a pas qu'au Pic du Midi qu'on observe les étoiles.
Bien sûr. Alors là, nous arrivons dans une salle où il y a un petit film que les visiteurs peuvent voir.
Voilà, c'est un petit film qui dure un quart d'heure, qui retrace l'histoire du pic. Je vais dire, c'est un peu le clou du spectacle, parce que c'est une aventure humaine incroyable, hein, depuis les fondateurs Nansouty et Vossena, jusqu'au plan Pic 2000 et le sauvetage du pic. Il y a eu tout un tas d'aventures, et vous aurez l'occasion, en venant au pic, de participer aussi un peu à cette aventure, hein, puisque le fait de visiter le pic contribue à le sauvegarder.
Oui, ça aurait été dommage de perdre tout ça quand même.
On arrive dans une pièce qui est consacrée à des expos temporaires. C'est une exposition sur les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, c'est une grosse partie de l'histoire du pic. Hein. Et c'est ici qu'on a pu trouver certaines particules. Cette découverte a été récompensée par un prix Nobel. C'est une grosse partie de l'histoire du pic et on a voulu faire une expo cette année pour le retour des cosmiciens et des rayons cosmiques au pic. Bien que, bon, ils ne nous ont jamais quittés, hein, on a toujours des rayons cosmiques qui nous traversent. Et là, ici, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle une chambre à brouillard. Donc ça permet, avec un système un peu complexe, de pouvoir visualiser un peu de la radioactivité du sol, hein, le radon. Et on voit des grands traits, parfois, qui sont la matérialisation des rayons cosmiques, de ces fines particules qui nous traversent et qui traversent le sol, la planète, et qui nous viennent du cosmos. On arrive à la fin du musée, la visite n'est pas finie. Hein. Vous avez dû y aller, mais il y a toutes les terrasses panoramiques et les tables d'interprétation pour comprendre un peu le panorama et puis l'environnement du pic. On a aussi une petite boutique avec quelques souvenirs, un coin librairie avec des livres consacrés au pic du Midi, à l'astronomie, aux Pyrénées. J'oubliais, on a bien sûr un restaurant où on peut vous accueillir et où on fait de la cuisine traditionnelle.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation de la partie touristique du Pic du Midi. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Quant à moi, je vais me rendre maintenant au coronographe du Pic du Midi. Nous poursuivons cette visite du Pic du Midi et je me trouve avec deux nouveaux interlocuteurs qui vont se présenter.
Bonjour, alors moi je m'appelle Sébastien Lavandier, je suis membre de l'association des observateurs associés.
Bonjour, Jean-Pierre Goya, donc je suis bien sûr observateur associé comme Sébastien et je suis présent au Pic une mission par an.
Vous travaillez sur le coronographe, donc en quoi consiste votre travail ?
Eh bien c'est mettre en route la manip le matin. Et puis quand les conditions météo sont bonnes, eh bien, à ce moment-là, on fait la collecte donc des images sur la couronne solaire.
En quoi consistent ensuite tous ces relevés ?
Les images sont transférées sur un serveur ici, donc au laboratoire, et on fait des films en fin de journée. Et après, c'est transféré donc à l'observatoire de Tarbes et de Meudon, de façon à être historisé sous base 2000. Donc c'est une base de données complète qui est accessible bien sûr aux scientifiques, de façon à faire des corrélations d'observation entre ce qu'ils peuvent observer au niveau des satellites comme SOHO, Stéréo ou Trace, et ce qu'on peut observer au pic, pour de façon à confirmer des modèles et mettre en place donc leur étude sur la couronne solaire. L'étude, c'est de comprendre pourquoi on a une élévation de température au moment où on est à la surface du Soleil qui est à 6000 degrés et à 1000 km d'altitude où on est à 2 millions de degrés. Donc pour l'instant, les chercheurs ils ne savent pas exactement pour quelle raison il y a cette élévation de température. Et donc la manip qui s'appelle CLIMSO eh bien, permet donc d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette élévation de température.
Le coronographe se situe où exactement ?
Il se situe au-dessus de nous, on va vous le présenter, ainsi que le poste de pilotage.
D'accord, et bien écoutez, ben je vous suis. Nous voilà donc dans la salle de commande, qui fait la description un peu.
Bah là vous avez l'ensemble de deux coronographes et deux lunettes qui se trouvent à côté et on reçoit les images ici sur ces quatre terminaux, ces quatre écrans. Donc chaque écran nous permet de visualiser une image dans une longueur d'onde bien précise. Alors là, vous avez les deux coronographes dans l'arrêt H-alpha et dans l'arrêt du fer 13, et les deux lunettes dans l'arrêt H-alpha aussi et dans l'arrêt du calcium. Et ici, vous voyez le poste de pilotage à proprement parler, donc de là, on peut suivre le soleil. Ici, on a en direct sur l'écran de droite les informations qui nous viennent du satellite GOES concernant le flux de particules qui est émis en temps réel par le soleil, donc ce qui nous permet de suivre l'activité du soleil en direct.
Ce que vous avez appelé les particules, c'est justement le vent solaire.
C'est le vent solaire, oui.
Donc on peut voir, pour décrire un peu, parce que c'est vrai que c'est pas très radiophonique, on peut voir cet immense coronographe qui, bien évidemment, est dirigé vers le soleil. Et sur les différents écrans qu'on parlait tout à l'heure, eh bien je vois effectivement le soleil éclipsé et on voit les protubérances solaires, effectivement.
Il n'y en a pas beaucoup en ce moment.
Alors je vois sur le côté aussi qu'on a des images du soleil, mais là qui n'est pas éclipsé, donc vous avez aussi une observation sans coronographe. Quoi.
Tout à fait, donc on fait des photos aussi en H-alpha, donc sur l'arrêt de l'hydrogène, et aussi sur le calcium, qui est une autre fréquence sur laquelle on travaille, et ça permet donc de voir le soleil sur deux températures différentes, on va dire.
Et on peut voir notamment aussi les taches solaires, on en voit une.
Voilà, exactement, donc on en voit quelques-unes, il y en a même 3-4. Ça permet de mettre en évidence l'activité sur la surface du soleil.
Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs ce qu'est les taches solaires ?
Bah, les taches solaires, c'est un endroit où on a un champ magnétique relativement intense qui va créer une activité particulière. La tache solaire, c'est une baisse de température, c'est-à-dire que la température, elle baisse, la surface est en moyenne à 6000 degrés, et au niveau de la tache, elle va baisser donc à 4000 degrés. C'est quand même une température élevée, mais cette différence de température va faire qu'on aura une tache noire qui sera bien visible donc au niveau de l'instrument.
Il faut surtout préciser aux auditeurs qu'il ne faut jamais regarder le soleil sans protection.
Ah, ça c'est obligatoire, il faut absolument se protéger, les lunettes de soleil ça suffit pas, il faut prendre donc des lunettes spéciales pour pouvoir observer le soleil. Il faut d'abord se faire conseiller d'une façon précise, surtout au niveau d'observation du soleil, qui est quand même, si on ne prend pas les précautions nécessaires, peut avoir des problèmes irréversibles.
Comme par exemple la perte de la vue.
Exactement, tout à fait. Alors une chose très importante, il y a un petit panneau qui est là. La manip donc, a été financée par un autre mécène, Fiducial, et c'est grâce à lui donc, qu'on a l'instrumentation et qu'on a aussi, bien sûr, l'activité des observateurs associés pour faire les images. Tout ça, c'est un budget, et ce budget est assez conséquent, et c'est grâce donc, à Fiducial donc, qu'on peut continuer à faire de l'observation sur la couronne solaire.
Le coronographe, évidemment, une fois le coucher du soleil, est arrêté jusqu'au lendemain.
Voilà, tout à fait. Donc, on a une limite à ne pas dépasser. La table a ses limites mécaniques. Quand on arrive, je dirais, à peu près à 17h en heure solaire, on arrête la manip. Donc, on remet en position est pour que ce soit prêt pour le lendemain matin. Et puis, il y a toute une séquence d'arrêt au niveau informatique pour pouvoir transférer toutes les images. Et après, on fait le traitement en soirée des films et les transferts sur Tarbes et Meudon. Pour nous, quand le soleil est couché, on n'a pas fini. Voilà, on a encore du travail.
Et tôt le matin, là aussi, des manips à faire.
Voilà, donc dès que le soleil s'est levé, eh bien, nous, on se lève avec lui. Et on met en route donc, la manip. Ça prend à peu près une bonne demi-heure, de façon à initialiser correctement tous les ordinateurs. Les caméras, il faut qu'elles se mettent en température parce qu'elles sont refroidies à moins 20 degrés. Donc, ça prend un certain temps. Et puis, il faut que aussi les liaisons informatiques entre les différents serveurs s'établissent correctement. Donc, tout ça, ça prend un certain temps.
Et voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ce coronographe. Eh bien, merci beaucoup pour cette visite du coronographe ici au Pic du Midi. Alors, une dernière chose, puisque le Pic du Midi est ouvert au public, est-ce que le public peut voir ce coronographe ?
Oui, bien sûr. Ouais. Donc, il faut demander donc aux personnes donc qui s'occupent du pic une autorisation. Et il y a des visites qui sont assurées tous les jours, tous les matins. Les visites se font le matin, de façon qu'on ait la tranquillité pour faire toutes nos observations le restant de la journée.
Merci beaucoup pour cette présentation du coronographe du Pic du Midi. Je vais maintenant rejoindre celui qui était mon tout premier interlocuteur au début de cette émission « À toi les étoiles », Jean-Jacques Véder. On arrive au terme de cette émission à toi les étoiles. Alors, pour conclure cette émission à toi les étoiles, quelques mots.
Eh bien, j'invite tous vos auditeurs à venir nous retrouver ici au Puy du Midi. C'est sûr, comme aujourd'hui, vous voyez encore le soleil, peut-être demain, nous ne le verrons pas. Venez nombreux visiter notre belle région et notre département des Hautes-Pyrénées et passer dans la plus belle ville de France, Bagnères-de-Bigorre.
Merci Jean-Jacques Véder pour ce mot de la fin. Merci également pour votre participation à cette émission à toi les étoiles. Je remercie aussi Sébastien Vauclair pour avoir préparé mon arrivée et mon séjour ici au Pic du Midi. Merci également aux différents intervenants de cette émission À toi les étoiles. Dommage que la météo est venue un peu gâcher la fête. J'aurais pu enregistrer beaucoup plus de choses, mais elle a fallu que je fasse avec. Merci également au personnel du Pic du Midi pour leur accueil et leur gentillesse. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mercredi 19 septembre de 18h à 19h pour la dernière émission À toi les étoiles de cette formule de l'été. Je vous ferai découvrir encore un nouveau lieu avant de réintégrer ensuite les studios d'IDFM Radio Anguin. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur internet, hein, vous tapez À toi les étoiles. Quant à moi, eh bien, je vais profiter encore un petit peu de ma présence ici au Pic du Midi avant de rejoindre le plancher des vaches. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Briot, et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous le 19 septembre.
IDFM 98 FM.